Bonjour, je suis Myriam Alma, je dirige le service de long format de BFM TV, avec moi Philomène Remy et Quentin Bollier, qui sont tous les deux grands reporters à Ligne Rouge et qui viennent de réaliser une enquête inédite qui s'intitule « Russie, les enfants volés d'Ukraine ». Philomène, tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée de ce documentaire ?
J'ai commencé à entendre parler de ce sujet, à lire quelques petits articles là-dessus au mois de juillet, mais c'est vraiment le 1er août, en fait, quand il y a eu une tribune qui a été publiée dans Le Monde, une tribune signée par plusieurs intellectuels, chercheurs, mais aussi pédopsychiatres, par un collectif qui d'ailleurs est devenu une association qui s'appelle « Pour l'Ukraine, pour leur liberté ». Et la nôtre, une tribune qui dénonçait donc la déportation d'enfants ukrainiens, la russification d'enfants ukrainiens. Ce sont évidemment des mots qui marquent. Et donc je me suis dit, mais attendez, il faut absolument qu'on fasse des recherches sur ce sujet. Je suis arrivée à Ligne Rouge en parlant directement à vous, Myriam, ma rédactrice en chef. Et après, en revanche, c'était dur d'enquêter de Paris. On ne répondait pas forcément à mes emails. Et donc j'ai profité d'une mission où j'étais en Ukraine avec Quentin Bollier. Et là, directement, quand on est arrivé, on en a parlé à notre fixeuse incroyable, Sofia Timoshenko-Cauchemar, qui nous a aidés sur ce sujet. Et on a eu un rendez-vous décisif à Kiev avec Katerina Rachevska, qui est juriste pour le Centre régional des droits humains à Kiev et qui a constitué également en fait une requête pour la Cour pénale internationale sur Maria Lvova-Belova, qui est dont on parle dans notre documentaire, et qui est donc la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant. Et donc là, on a compris très rapidement avec Quentin, on est sorti de son bureau et on s'est dit « Bon, on doit faire un reportage là-dessus, le sujet est trop important pour ne pas en parler ».
Le militaire russe est arrivé et a demandé à parler aux responsables. J'ai répondu que c'était moi. Il a dit « Où sont les enfants ?» et a ajouté « Je suis navigateur ». Je lui ai demandé s'il avait un vrai nom et il m'a répondu que non, qu'il était le représentant du président de la Russie chargé de mission humanitaire. Il est entré, accompagné de ses soldats, une dizaine d'hommes, en treillis, en gilet pare-balles, tous casqués. Ils avaient des fusils de précision, des armes automatiques. Il a demandé « Où sont les enfants ?» J'ai répondu « Dans un local, en bas ». Et il m'a dit « Vas-y, montre-moi ».
Quentin, justement, est-ce qu'on a une idée de ce que représente ce phénomène, de combien d'enfants sont concernés ?
En fait, à ce stade, c'est assez difficile de savoir combien d'enfants ont été déportés, emmenés de force, emmenés et pas rendus par la Russie. Les situations sont assez complexes. Les derniers chiffres des ONG parlent d'environ 16 000 enfants dont les cas ont été signalés, documentés de manière précise par leurs parents ou par les personnes qui s'en occupent en Ukraine et qui souhaitent les récupérer.
Comme dit Quentin, 16 000, c'est le chiffre d'une plateforme qui s'appelle Children of War, sur laquelle les parents, les proches peuvent signaler la disparition de leurs enfants. Mais en fait, chaque situation est assez unique. Il y a beaucoup de cas, notamment, qui se passent aussi via les camps de filtration. Donc, c'est-à-dire que lorsque les villes ont été annexées par les Russes, il y a des parents qui sont passés par ces camps de filtration. Et là, certains ont été séparés de leurs enfants. Ces chiffres-là ne sont pas compris dans ces 16 000 enfants. Là-dessus, Amnesty International a publié un rapport en novembre dernier. Et bien sûr, ce qu'on a pu constater avec Quentin, c'est qu'il y a d'autres cas. Il y a les enfants qui sont pris directement dans les orphelinats, les enfants d'instituts d'aide sociale à l'enfance, des enfants qui sont placés, qui eux aussi ont été emmenés directement par des Russes. On ne sait pas si ces chiffres sont compris. Alors, Vladimir Zelensky parlait de milliers d'enfants en décembre dernier, il parlait de 50 000 à 200 000 enfants. Nous, on ne s'avance pas sur ces chiffres, mais dans tous les cas, 16 000 enfants, c'est déjà énorme, en fait.
D'ailleurs, vous parlez des différents cas, justement, d'enfants emportés dans des orphelinats, des enfants placés. Il y a aussi des familles que vous avez pu rencontrer. Il y a notamment cette histoire forte de la mère d'Anna que vous avez rencontrée à Kherson. Elle, c'est encore une histoire un peu différente.
C'est une histoire en fait assez complexe. Kherson, c'est une des villes qui a été prise le plus rapidement par l'armée russe dès les premiers jours de la guerre. Et dans l'esprit des gens à Kherson, il allait se passer sans doute ce qui s'était passé en Crimée, c'est-à-dire une occupation russe de longue durée. Et la petite Anna, en fait, son école, elle a changé. C'était une école ukrainienne avec un drapeau ukrainien. Les Russes sont arrivés, ils ont mis un drapeau russe, ils ont mis des instituteurs russes, ils ont mis un programme russe. Et puis, au milieu de l'été, on lui a proposé de partir en camp de vacances en Crimée. À l'époque, la Crimée, c'est juste derrière Kherson, c'est à 200 km, c'est facilement atteignable en car. Et donc, les parents ont laissé partir Anna en camp de vacances parce qu'ils se disaient, de toute façon, les Russes sont là pour longtemps, on est occupé par les Russes et il faut bien que ma fille fasse quelque chose. Et de manière assez brutale, à l'automne, quand Kherson a été abandonné quasiment par les Russes, ils sont repartis de l'autre côté du Dniepr, et ben, les parents se sont trouvés soudainement séparés d'Anna par la ligne de front qui venait d'apparaître entre eux.
En octobre, on nous a proposé de les envoyer en colonie de vacances, en Crimée. Pour 2 semaines. Ils ont rassemblé les élèves et sont partis le 7 octobre. 15 jours plus tard, on a été contacté par l'accompagnateur qui nous a informé que le séjour était prolongé de 2 semaines. Et à nouveau, 15 jours plus tard, on a appris que le séjour était encore prolongé d'une semaine supplémentaire. Et puis, plus aucune nouvelle.
Et donc, elle n'est pas rentrée, en fait. Cet enfant est resté en colonie de vacances, on va dire, presque, et ils n'ont pas pu la récupérer.
Ils n'ont pas pu la récupérer tout de suite. Ça a été prolongé. Elle a eu des courriers. Quand elle demandait où ça en était, on lui disait ah, ben, ça a été prolongé un petit peu les vacances il y a quelques semaines de plus, puis un mois de plus, etc. Et ils étaient en contact, ses parents, avec leur fille, avec Anna, qui leur envoyait des messages ou des messages vidéo en disant mais moi, je veux rentrer, venez me chercher.
Ce qui est aussi vraiment édifiant, en dehors de l'histoire d'Anna et de la colonie de vacances, entre guillemets, c'est qu'on voit dans votre... Enfin, vous avez recueilli des preuves quand même de kidnapping. Enfin, on voit des militaires russes venir chercher des enfants. Ça, vous avez vraiment recueilli des preuves? Comment vous avez réussi à les recueillir, ces preuves-là?
On est allé à la rencontre du directeur d'un orphelinat de Kherson qui s'appelle Volodymyr Seydak et qui, lui, a réussi à sauver 52 enfants parce qu'il avait pressenti, en fait, que l'armée russe allait venir. On lui avait proposé à plusieurs reprises de les envoyer en colonie de vacances en Crimée. Mais lui, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il sentait que c'était un aller simple, que s'ils y allaient, ils ne revenaient pas. En revanche, il a anticipé le fait que les Russes allaient venir directement chercher les enfants dans son orphelinat. Donc ce qu'il nous dit, c'est « moi, face à des armes, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire ?» Donc il a mis en place tout un stratagème pour exfiltrer les enfants par petits groupes, un stratagème digne d'un film. Et surtout, il ne s'est pas trompé. En fait, quelques semaines après avoir organisé l'exfiltration des enfants, eh bien, des hommes armés sont arrivés, des hommes cagoulés. Et on a pu, il a partagé avec nous ces images de vidéosurveillance qu'il n'avait pas partagées jusqu'ici, ni à des journalistes, ni aux autorités ukrainiennes. Mais il avait déjà parlé à d'autres journalistes. Mais en fait, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'à Kherson, comme l'a dit Quentin, on est dans une ville qui a été libérée. Et il y a toute une atmosphère un petit peu de collabo, qui n'est pas collabo. Les Russes sont finalement qu'à quelques centaines de mètres de l'autre côté du Dniepr. Toute la journée, la ville est bombardée. Donc les gens se disent aussi, ok, enfin, nous, on peut parler sur les Russes, sur ce sujet, mais qu'est-ce que vont faire ces journalistes pour nous si dans quelques semaines la ville est à nouveau prise par la Russie?
Et ce qui est intéressant avec ces vidéos, et on a eu un deuxième témoignage concordant qui raconte exactement la même histoire dans un autre centre de Kherson qui a accueilli des enfants, c'est que ça montre le côté planifié, organisé du rapt, de la récupération d'enfants par les Russes. Il y a un homme qui se présente comme envoyé par Vladimir Poutine, qui arrive avec des hommes en armes, qui se présente à l'accueil et qui demande à voir le directeur. Et sur les vidéos de surveillance, on voit très bien cet homme aller fouiller dans les armoires, chercher les registres pour avoir les noms des enfants. Et exactement la même chose s'est passée dans plusieurs centres de Kherson, ce qui montre bien que c'est quelque chose de planifié, d'organisé, et c'est pas par hasard des soldats lors d'une patrouille qui tombent sur un orphelinat et qui demandent où sont les enfants. C'est quelque chose d'organisé et de planifié.
Et ce que je veux ajouter, c'est que quand on a montré ces images justement à Katerina, cette avocate des droits de l'homme à Kiev, elle nous a clairement dit ce que vous avez récolté, ce sont des preuves pour la Cour pénale internationale qui montre cette politique automatique, cette politique d'envergure pour traquer les enfants.
En fait, c'est une politique, si on veut l'expliquer, pour russifier ces enfants.
L'idée, effectivement, c'est de prendre des enfants qui ont grandi dans une culture ukrainienne et de les emmener en Russie et de leur inculquer une culture, une éducation russe. Et ça va parfois même jusqu'à un changement d'état civil. Il y a plusieurs avocats qui nous en ont parlé. C'est-à-dire que des enfants qui ont un nom, une date de naissance, un lieu de naissance en Ukraine, on leur change leur nom, on change tout ça, et ils deviennent des enfants russes par la force des choses.
Et ce qui rend donc impossible pour ces enfants, plus tard, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, de retrouver leur véritable famille, leur identité, puisque ces enfants, donc en leur changeant leur état civil, on leur change leur nom, leur date de naissance, là où ils sont nés. Et donc si on a 12 ans et qu'on se rappelle de qui sont nos parents, il y a une chance de pouvoir peut-être un jour retrouver notre famille ukrainienne. Mais si c'est un enfant de 4 mois ou de 2 ans, comme on a pu le voir à Kherson, puisqu'il y a, eu un autre endroit où cette fois-ci ils ont trouvé les enfants et c'était que des enfants âgés de 4 mois à 2 ans, ces enfants ne retrouveront jamais leur famille ou leurs proches en tout cas.
Sur les conditions de tournage, donc vous avez essentiellement tourné à Kherson sur ce sujet-là. Dans quelles conditions de tournage ?
C'est extrêmement compliqué de tourner à Kherson. Kherson est un tout petit peu sorti des radars de l'actu principale ces dernières semaines parce que effectivement il y a une ligne de front qui est extrêmement claire avec ce fleuve qui sépare les deux rives. Mais Kherson, c'est une ville qui est quotidiennement bombardée par les Russes. Au moment où on y était, c'était des impacts multiples toutes les heures. Ça n'arrêtait pas. En permanence, on entendait ça. On est passé dans un quartier, les ruines d'un immeuble étaient encore fumantes parce que ça venait d'être bombardé. On a essayé d'aller dans un hôpital et l'hôpital avait été bombardé la veille, a fait menacé de bombardement. Je vais reprendre. On a essayé d'aller voir une directrice d'un hôpital. Elle nous a dit ne venez pas, les Russes nous ciblent. S'ils voient des journalistes tourner autour de l'hôpital, on va être davantage ciblés. Le quartier de la directrice de l'hôpital avait été ciblé la veille. Donc c'était des conditions de tournage extrêmement compliquées. On ne pouvait pas forcément rester très longtemps à chaque fois. Et c'était aussi une ville avec une atmosphère extrêmement complexe où il y avait effectivement ces reproches de collaboration à certains et une situation d'autant plus contradictoire que finalement, depuis que l'Ukraine a repris la ville, les Russes ne cessent de la bombarder, ce qui ne se passait pas avant. Donc finalement, pour beaucoup d'habitants, de manière un petit peu complexe, c'était plus simple, sans doute, en tout cas en matière sécuritaire, c'était plus simple sous aux occupations russes qu'aujourd'hui, maintenant que la ville a été reprise par les Ukrainiens et qu'elle est bombardée quotidiennement par les Russes.
Et on a aussi tourné à Balaklia, qui est donc une ville qui se situe à une heure et demie de Kharkiv. Et là-bas, on a vraiment fait un véritable travail d'enquête. On a fait du porte-à-porte en pleine nuit avec Sofia, donc notre incroyable collaboratrice donc ukrainienne. Où là, on a commencé par aller voir une employée à la mairie qui avait récupéré des documents dans une poubelle quand leur ville était occupée par les Russes pour trouver exactement combien d'enfants avaient été envoyés dans ces fameuses colonies de vacances. Et on a pu voir avec Quentin des enfants revenir de ces fameuses colonies. Et alors, ils ne sont pas revenus par hasard. Hein. Ils sont revenus parce qu'il y a une ONG qui s'appelle Save Ukraine qui avait organisé un groupe, tout un groupe avec plusieurs parents qui donc sont allés chercher eux-mêmes leurs enfants en Russie. Un voyage qui a un coût, qui a été pris en charge par l'ONG parce que sinon, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens, qui ne pensent en fait même pas aller dans le pays ennemi en pleine guerre pour aller chercher leurs enfants. Donc, ils sont passés par la Pologne, par la Biélorussie. Et ce qui était assez frappant, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est que les enfants sont revenus les bras chargés de cadeaux, un téléphone portable en main qui avait été offert par le gouverneur de la région. Et donc, il y a aussi ce qu'on a senti, c'est qu'il y a une politique beaucoup plus perverse qui fait que les enfants qui laissent repartir trouvent finalement les Russes assez sympas et qui vont dire à leurs copains de la ville « Ah, mais en fait, là-bas, c'était sympa, on avait des activités toute la journée, etc. » Donc, il y a une véritable perversion, en tout cas côté russe.
Derrière tout ça, il y a en fait une femme qui est un personnage assez extraordinaire. C'est une Russe qu'on surnomme Bloody Mary.
Exactement, c'est Maria Lvova-Belova, qui est la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant. Donc c'est une femme qui a été mandatée par Vladimir Poutine et qui est vraiment le maître d'œuvre de toute cette politique. Donc, et qui en fait l'affiche elle-même sur sa chaîne Telegram, donc le réseau social russe, où là on la voit sur des vidéos débarquer des enfants donc, d'avions, de trains, de bus, à grands coups de ballons et de larmes, des familles russes viennent les récupérer. il y a des distributions d'enfants qui se font dans des aéroports, donc souvent sous le feu des projecteurs, parce qu'il y a aussi les gouverneurs locaux qui sont présents. Et donc, pour tout ce travail, on avait entendu parler de Maria Lvova-Belova, évidemment, avant de nous rendre en Ukraine, mais pour authentifier toutes les vidéos, on a eu Alexandra Dalsbaek, qui nous a beaucoup aidés sur l'enquête.
Qui est une journaliste russe, hein, pour préciser. Ouais.
Exactement.
Avec qui on travaille régulièrement.
Notre fixeuse Sofia Timoshenko-Cauchemar qui nous a aidés, mais également notre traductrice aussi. Enfin, ça a été un vrai travail d'équipe. Et bien sûr, l'avocate que nous avons rencontrée à Kiev, des droits de l'homme, qui, elle, a constitué précisément un dossier à la Cour pénale internationale sur Bloody Mary, donc la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant qui s'occupe de ce transfert et qui continue de transférer de force ses enfants.
Nous avons accueilli 1090 enfants orphelins qui sont arrivés de différents établissements. Qu'en pensez-vous? Nos concitoyens russes, ils ont un grand cœur et ils font déjà la queue pour prendre ces enfants.
Oui, c'est très bien.
Mais il y a tout de même quelques détails légaux auxquels il faudra remédier.
Ce sont des circonstances exceptionnelles et je pense qu'il ne faut pas penser aux lenteurs bureaucratiques, mais plutôt aux intérêts des enfants.
Et ce qui est intéressant et assez étonnant avec cette histoire, en fait, c'est qu'on a tourné effectivement l'enquête côté ukrainien et que l'enquête côté russe, elle est presque plus facile que ce qu'on pourrait s'imaginer parce que toutes les preuves sont là sous nos yeux. Toutes les preuves de cette organisation de l'enlèvement, de transfert forcé d'enfants en Russie, elles sont sur le canal Telegram de cette femme. Et elles sont aussi dans les discours politiques, elles sont dans les discours des gouverneurs locaux. Donc finalement, les preuves sont assez faciles à récolter parce que tout se passe sous nos yeux et tout est posté sur les réseaux sociaux.
Ce qui fait d'ailleurs la force aussi de ce reportage, c'est qu'on a aussi réussi à avoir le témoignage d'une famille russe qui a récupéré des enfants. Alors, il faut dire que ce n'est pas vous qui l'avez tourné parce qu'on ne peut pas se rendre en Russie, nous, BFM TV, parce qu'on ne nous accorde pas de visa. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver cette famille russe et aller la voir?
Alors l'équipe qui a travaillé pour nous sur place a essuyé beaucoup de refus, hein, a contacté de nombreuses familles et évidemment ce fut difficile pour eux d'avoir une famille qui accepte, mais ils ont enfin trouvé cette famille donc, qui est dans un tout petit village en pleine Sibérie. Et en fait ce qu'on comprend c'est que ces familles elles ont l'impression de bien faire. Ces familles elles ont l'impression de sauver des enfants de la guerre, de sauver des enfants de cette politique, ils veulent dénazifier les enfants ukrainiens parce qu'ils sont victimes de cette théorie, de ce brainwashing qui arrive tout droit du Kremlin en fait. Eux aussi sont en pleine propagande.
Oui, c'est assez étonnant parce que c'est une famille qui a déjà 11 enfants et qui en a récupéré 5 d'un coup.
Et ce qui montre d'ailleurs de manière assez claire le nombre d'enfants que la Russie transfère, c'est que cette famille dit « nous, on en avait demandé 2 et puis finalement, on en a eu 5 », comme si c'était une distribution à Noël et puis « tenez, il en reste, je vous en mets un petit peu plus ». L'interview est assez sidérante de ce père de famille russe qui a donc demandé à recevoir, à accueillir chez lui des enfants ukrainiens. Et il dit bien aussi, si par hasard un jour les parents ukrainiens viennent et veulent voir leurs enfants, ils pourront leur dire bonjour, mais je ne les rendrai pas.
Il ne faut pas en parler en ces termes-là, enfants volés ou pas volés. Ce n'est pas important qu'ils soient avec leurs propres parents ou d'autres parents. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils soient heureux.
Parce que là, en l'occurrence, c'est des enfants, effectivement, qui ne sont pas orphelins, qui ont encore des parents, en tout cas une mère, je crois.
C'est des enfants qui étaient placés parmi les services sociaux ukrainiens.
Cette famille russe, ça permet aussi d'authentifier ce qu'on a pu voir en Ukraine. Enfin, ça authentifie effectivement que c'est une vraie politique menée par Vladimir Poutine.
Ouais, c'était très important dans le documentaire d'essayer d'avoir les deux côtés, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et également ce qui se passe en Russie.
Est-ce qu'on sait si ça va avoir des suites? Enfin, est-ce que légalement c'est possible? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau international?
Alors, ce qu'on sait, donc, c'est qu'il y a déjà deux requêtes de communication qui ont été transmises au minimum à la Cour pénale internationale. Une donc par ce collectif, cette association française, une par le Centre régional des droits humains à Kiev. Mais à ce jour, aucune enquête n'est ouverte officiellement. On sait tout de même par ailleurs que la commission d'enquête sur l'Ukraine des Nations Unies se pencherait sur la question, mais aucune annonce n'a été faite donc officiellement. Et bien sûr, le gouvernement ukrainien qui essaye malgré tout, mais le gouvernement ukrainien qui est assez débordé également par d'autres sujets, un gouvernement qui est en pleine guerre.
Bien sûr, c'est une affaire bien sûr qu'on va continuer à suivre. D'ailleurs, on a appris qu'il y a des nouvelles, puisqu'il y a l'une des petites filles que vous suiviez, que les parents ont réussi à retrouver.
Exactement, hein, on vient d'apprendre qu'Anna, qui a 12 ans, qui est dans le documentaire, vient de réussir à retrouver son père, donc qui est parti lui aussi avec un convoi de parents en Russie via l'ONG Save Ukraine. Mais ce que nous expliquaient les organisateurs donc, de ce voyage, les membres de cette ONG, c'est que cette fois-ci, le retour, c'était la troisième fois qu'ils organisaient un tel voyage, a été extrêmement compliqué, qu'à la frontière russe, ils ont bien cru qu'ils ne pourraient pas rentrer. Donc ils ne savent pas combien de temps les autorités russes vont laisser ces mini-convois. Hein, parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est des enfants qui rentrent au compte-gouttes. Hein. À ce jour, on en est à 142 enfants qui ont pu rentrer en territoire ukrainien. Ce qui reste
sur
quand
les
même
16 000
sur
possible,
plus de 16 000 ouais. Au minimum. Donc ça reste quand même une goutte dans l'océan.
Merci Philomène, merci Quentin. Je vous rappelle donc le nom de cette enquête bouleversante et passionnante, Russie, les enfants volés d'Ukraine, et ça a retrouvé sur notre plateforme RMC BFM Play.